Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je tiens tout de suite à me désolidariser de cette phrase. Le buffet à volonté, c'est pas du tout mon truc.
D'accord.
Je préfère un bon chinois, un bon Jap, mais pas de buffet à volonté.
L'assiette gâchée à 5 euros,
voilà,
un 5 euros de supplément.
Ça, ouais,
ça j'ai un gros problème. C'est buffet à volonté ou c'est pas buffet à volonté? Je vais pas payer 5 euros si j'ai envie.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, c'est Génération After, comme tous les soirs sur RMC, de 20h à 22h. Très heureux de vous retrouver. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast et nous regarde sur After Food TV avec ce soir le duo de l'été, toujours. Kevin Diaz est là ce soir. Salut KD.
Salut à tous.
Walid Acharchour est dans la place. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Les gars.
Ça va très bien.
On a digéré le petit kebab d'après Génération After d'hier.
Ouais, non, moi j'ai pas mangé de kebab. Moi.
C'est fait.
Ah
oui,
d'accord. Ah non, moi j'ai une petite poké hier en rentrant.
Ouais.
Ouais. Je mange tout le soir, moi. Moi
j'en fais
le salade
César.
Moi, c'est
salade César,
sans
salade grecque,
ouais,
sans sauce.
Salade après grecque. 19h, je
mange plus. La César, c'est meilleur que la grecque, hein, je l'ai pas dit.
Pas du tout, mais
déjà la salade César,
très bonne salade dressing, César, c'est
ce dressing horrible là. Sans... Ah non, moi je
salade César croton, c'est bien meilleur qu'une salade grecque, je suis
d'accord. Une César à volonté.
Non, mais attends, tu mets la sauce blanche là. Cette sauce blanche qui est infâme.
Je sais pas pourquoi j'ai pris ça hier soir.
C'est dur.
Mais elle est infâme cette sauce.
Elle est excellente.
Elle sert à rien la sauce blanche, c'est comme la salade grecque.
Non,
elle a pas de goût la sauce blanche.
César, c'est
ce que disent en mettent trop et tout.
Génération After au programme ce soir à partir de 21h. Dans une heure, donc, on parlera de Marseille, Ceballos qui ne vient pas finalement, le joueur était hésitant, on a tranché, c'est le leitmotiv de Mehdi Benatia notamment, si un joueur n'est pas motivé à 100%, on passe à autre chose. La liste de Deschamps également pour les qualifs, pour l'Ukraine et la Pologne, et l'Islande, pardon, Akliou appelé pour la première fois, comment peut-il s'insérer dans le système Didier Deschamps. Mais dès 20h, dans quelques secondes, notre invité exceptionnel sur RMC dans Génération After, il a joué 560 matchs en pro, 41 sélections en équipe de France, Arsenal, Manchester City, CVFC, Marseille, évidemment. Samir Nasri est avec nous dans Génération After. Salut Samir.
Salut, salut, salut à tous.
On est très
salut
heureux Samir. De t'accueillir sur RMC ce soir. Je crois que tu connais un peu des gars autour de la table.
Un petit peu. Hein. Un petit peu. Oui.
Deux joueurs corrects au paddle. Juste corrects. Ils sont timides. Timides, les gars, ou quoi?
Non, pas timides. C'est vrai qu'on l'a un peu initié au paddle sur la dernière année et il progresse de jour en jour. Ça commence à devenir un peu dur.
Il a dépassé le maître ou pas?
Ouais, là il est arrivé à maturité. Mais bon, c'était la suite logique. C'est la suite logique.
Moi, la première rencontre avec Samir, c'est quand il est venu débaucher un joueur de mon équipe.
Ah oui, c'est pour rappeler l'anecdote.
Ça, on va la garder parce que j'étais sur le cours aussi. Et moi, j'ai un peu vénère contre toi et Samir parce qu'on jouait. En plus, je faisais un super match.
Une pression psychologique.
Et il faut raconter le contexte. On rencontre après.
Vas-y,
on s'est pas,
après.
Mais on s'est pas trompé quand même.
C'est vraiment pas trompé.
Ouais,
c'est pas mal.
Effectivement. Alors ce soir, on a une heure un peu plus et des poussières avec toi, Samir, car on
va jusqu'à minuit là. Il a pas compris.
Évoquer ce documentaire qui est consacré à ta vie, ta carrière de Septem Les Vallons au titre en Première Ligue. On le verra dimanche soir sur Canal+ à 21h. Où tu es consultant, bien sûr. On va refaire ta carrière, parler un peu de l'OM, du PSG, de Ballon d'Or aussi. Peut-être si on a le temps, de la liste de Deschamps également. On est heureux de t'avoir ce soir avec nous. Et puis ensuite, on passera la main, bien sûr, à Gilbert Bribois pour l'after. Bonsoir, Gilbert.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
Walid, il tremble un peu parce que c'est ton idole quand même.
Ouais, oui, c'est mon joueur préféré. Mais bon, c'est bon, je suis passé.
Attends, qu'est-ce qui nous a bassiné avec Samir Nasri pendant des années
avant de le connaître? C'est vraiment ton joueur préféré?
Oui,
ou pas
mon joueur préféré. Ah, ouais.
Au-dessus de Zizou?
Bah, Zizou, en fait, moi, j'aime bien avoir un joueur préféré. Pas
générationnel.
Goat, non, mais pas GOAT. C'est-à-dire pas les très, 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 très forts.
D'accord. Ah, tu dis qu'il est pas très très
si,
très,
très, très, très, très très fort, mais pour moi,
l'échappe deux,
mais pour moi, joueur préféré Messi, Ronaldo, Zidane,
oui, c'est pas, c'est pas du, c'est pas du jeu. Moi,
mon vrai joueur préféré, le joueur que j'aime, etc., c'était Samir Nasri. Et au passage, il y a une vraie histoire avec, moi, je l'ai déjà raconté, mais avec l'after, parce que j'appelle la première fois pour défendre Samir Nasri après un France-Ukraine.
Ah, t'as fait le 32-16?
Ah oui,
je savais pas.
Je m'étais embrouillé avec Daniel.
D'accord.
Déjà. Ça, c'est impossible.
Déjà.
Il sera là tout à l'heure.
À 22h.
Avec Florent Gautreau, avec Jean-Louis Tour. On va parler de le mercato, bien sûr. Les dernières infos, notamment à Marseille. La liste de Deschamps. Qu'est-ce qu'on a encore au programme? De Zerbi, parce qu'en fait, De Zerbi, il a un peu la pression, mine de rien, maintenant. Donc, on va voir ce qu'on dit l'after. Tout à l'heure, il va falloir qu'il ait des résultats. Et puis, dans le cadre de nos 20 ans, on lance une grande série sur les matchs qui ont marqué l'after. Ce soir, on va parler de PSG Bucarest.
PSG Bucarest.
Oui, tu étais tout petit. Mais
quelle année?
Déjà vieux.
Quelle année?
Je sais plus.
D'accord. Tu n'as pas encore travaillé le match, Gilbert?
Pas encore.
Il a deux heures.
Donc voilà, ce sera tout à l'heure. On aura d'ailleurs Jimmy Algerino qui était sur le terrain.
D'accord, le grand Jimmy.
Voilà.
Voilà.
C'est tout, je vous laisse.
Enfin, 97, t'avais 4 ans.
97.
97, j'avais 3 ans.
3 ans, t'as 93.
Ouais, 93.
C'est ça.
Si je suis encore compté.
Merci Gilbert.
À tout à l'heure.
De 22h, je vous rappelle qu'on est également sur la chaîne YouTube de l'After. Vous êtes de 205, 75 000 abonnés. Le chat est ouvert. Vos messages qui apparaissent dans le mur. Alors, tu vois les messages derrière moi, Samir. T'as quoi? T'as Wawa PSG qui dit je suis parisien, mais je t'aime, Samir. Ça, c'est fort.
C'est gentil, ça, c'est merci.
Il y a aussi Benjedo qui m'appelle Nicolas Germain. Alors, je m'appelle Nicolas Jamin. J'avais un poster de Samir dans ma chambre. Et t'as Sylvain qui dit Petit Prince. Voilà, on est heureux de t'avoir avec nous ce soir. Samir, c'est parti. Donc pour ce documentaire d'1h30, hein, réalisé par l'excellent Marc Sauvourel, Samir Nasri Rebelle, c'est le nom de ce documentaire. Marc a attendu le micro à Cesc Fabregas, ancien coéquipier, Arsène Wenger, ancien coach, Patrick Vieira, Djibril Cissé, Jérémy Ménez, Mamadou Niang, tes frères, sœurs, ta mère, ton père. Ton très grand ami aussi, il est important dans le documentaire Mehdi Benassia, que certains vont découvrir encore un peu plus dans ce documentaire parce que tu en parles. C'est un très proche, Mehdi, pour toi. L'histoire remonte à plus de 20 ans désormais. On a eu la chance de le voir, hein, tous les trois, Kevin, Walid et moi, avant la diffusion dimanche soir sur Canal. Déjà, te dire qu'on l'a tous beaucoup aimé, on peut le dire. On est d'accord.
Bien sûr.
C'est très bien réalisé. C'est sans concession également. Parce que ça ravive des grands souvenirs qu'on a, nous aussi, en tête, hein. C'est un peu notre génération. Le football début 2000, 2010. Tout à fait. Tes débuts à Marseille. On va en parler. Le succès, les victoires. Ce que j'ai aimé aussi, c'est, ça raconte aussi, ce qu'il y a de bien dans le foot et ce qu'il y a de pas bien. Voilà. Ouais. C'est ça l'objet du documentaire. La pression énorme, l'attente autour de toi, à Marseille qui plus est. Et puis, les polémiques dont tu es parfois responsable, on va en parler aussi. Les médias aussi qui se sont jetés sur toi parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là. Tout ça, on va l'évoquer, on va tout balayer ensemble. D'abord, une question, Samir, que j'ai pas dans le documentaire. Tu parles de grands moments, on parlera de City, notamment ton titre en 2012. Est-ce que t'as vraiment kiffé ta carrière? Vraiment?
Ouais, vraiment, j'ai kiffé, ouais. J'ai kiffé parce que pour moi, le foot, ça représente un petit peu tout dans ma vie. C'est ma passion et j'ai réussi à en faire mon métier. En plus, réussir dans le club de ma ville, Marseille, comme je le dis au début du documentaire, quand tu nais à Marseille, ça te suit tout le long de ta vie. Et de réussir de jouer au Vélodrome, déjà, pour moi, ça a été une réussite. En dehors de mes expériences à l'étranger, après à l'étranger, quand tu gagnes des trophées, bien sûr, ça valide le fait que tu as fait le bon choix. Mais ouais, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé ma carrière.
T'es nostalgique ou t'es vraiment passé à autre chose désormais, quoi?
Non, passé à autre chose complètement. Le jour où j'ai décidé d'arrêter, je suis vraiment passé à autre chose. Il faut savoir aussi dire stop au bon moment, ne pas continuer à persévérer pour rien. Et puis le choix d'avoir arrêté aussi, c'était un choix qui a été dicté un petit peu pour raisons familiales et de santé. Donc, ouais, j'ai pas eu de regrets là-dessus.
Bon, on va parler aussi de ton rôle de consultant que tu découvres depuis 3-4 ans maintenant, pas de canal, et qui a aussi restauré ton image auprès de certains.
Oui.
Façon du Gary, oui. Comme Christophe l'avait vécu en rejoignant Canal à l'époque. Alors le doc, il commence très fort, très efficace, Marc Sauvourel dans le montage. Tu dis dès le début, j'ai entendu pendant ma carrière que j'étais le nouveau Zidane, le nouveau génie du foot français, mais aussi une Kaira, un petit con, le bad boy, un animal nocturne, toutes les rumeurs possibles. Et là, il te demande, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Et tu réponds honnêtement, et c'est pour ça qu'on te kiffe aussi, un peu tout.
Ouais, c'est vrai, un peu tout. Un peu tout, je pense que, bon, jamais de fumée sans feu. Donc, il y a eu pas mal de rumeurs, mais la plupart ont tout été un petit peu vrai, quoi.
Un peu vrai, parfois un peu exagéré peut-être, aussi. En tout cas. Tu incarnes aussi la génération 87, ça c'est au cœur du documentaire, dont on a beaucoup parlé ici même dans l'after, avec Jérémy Ménez, Karim Benzema, Atem Ben Arfa, la première génération avec des codes différents, qui passait pas auprès de certains anciens dans le vestiaire, notamment, auprès des médias généralistes aussi, qui avaient du mal à comprendre votre façon d'aborder le foot. C'était quoi par exemple? C'était le casque vissé sur les oreilles, la musique, des codes vestimentaires également?
Oui, c'est un peu tout. On va dire, on est la génération hip-hop en fait. On a grandi avec cette culture. Nicolas Anelka, c'est le premier joueur vraiment issu des banlieues à représenter autant les banlieues. Nous, on est tous de différents horizons. Atem et Jérémy sont de la région parisienne. Karim, il est de la région lyonnaise et moi de Marseille, mais on a tous grandi un petit peu dans le même environnement. Donc, on a eu ce truc-là et quand on est arrivé en pro, on n'avait pas forcément les codes des anciens de tout ce qu'il y avait à l'époque. On était là, en fait, pour prendre notre place et pour s'installer. Alors, peut-être qu'on n'avait pas forcément les codes, mais quand je vois les générations d'aujourd'hui, Ils ont le même comportement que nous, mais aujourd'hui, ça ne dérange plus, en fait. Parce
exactement.
On a été les premiers à l'avoir fait et ça a dérangé. Et après, finalement, tout le monde s'est adapté et ça a évolué un petit peu avec la culture d'aujourd'hui.
Kevin.
Écoute, moi déjà, bravo pour le documentaire parce que moi, ce que j'aime dans ce genre de format, c'est souvent les Américains font ça, que ce soit dans des inside avec des clubs ou pour retracer la carrière d'un entraîneur ou d'un joueur. C'est qu'en fait, j'ai redécouvert toute ta carrière.
Ouais.
Et ça, c'est top. Parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées, je me rappelais plus que t'avais commencé si jeune, et puis ensuite que t'avais choisi de partir d'Arsenal, alors que t'avais Manchester United et que City c'était le tout début du projet. Et que...
Il y avait le PSG aussi, on en parlera. Hein.
Oui, ouais. Mais bon, ça, le PSG, ça reste anecdotique. mais ce qui est vraiment très bien, c'est que même les plus jeunes ou les moins jeunes. En fait, on va tout redécouvrir. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé. À la base, je voulais faire que la moitié hier soir, la moitié cet après-midi, mais j'ai tout regardé hier soir parce que ça suit un peu comme une série. Il y a plusieurs étapes comme ça. Et je donnais une anecdote. Moi, j'étais persuadé que t'étais un Einstein. Et tu le dis dans le documentaire, tu vois. Et c'est des biais cognitifs.
Vraiment,
que...
t'étais persuadé de ça.
Enfin, persuadé, j'aurais pas mis ma main à couper, mais je pensais qu'il y était, tu vois, pour moi, dans ma tête, il y est.
Comme pour beaucoup de Français.
Et en fait, les problèmes que t'as eu, c'était après Naïsna, tu vois, mais
on
te rappelle pas, il y a des milliers de joueurs qui passent bien en sûr. Équipe de France, on se rappelle pas de toutes les histoires de qui, par exemple, un truc tout bête, il y en a qui pensent que Thiago Silva, il a joué le 8-1 avec le Brésil, ouais. Le 7-1, ouais. Alors qu'il a pas joué, ouais. Tu vois, donc des fois, il y a
c'est
des choses.
C'est un inconscient qui joue.
Voilà, c'est ce que je te dis, c'est
le cas associé à Franck Ribéry,
que Lewandowski était au Bayern contre Dortmund lors de la finale Bayern Dortmund alors qu'il était à Dortmund.
Mais c'est des biais cognitifs.
Il y a des trucs comme ça dans l'inconscient des gens.
Et en fait, Fabregas le dit aussi, quand on te met une étiquette dans le foot, mais il n'y a pas que dans le foot, dans la
oui,
vie aussi,
dans la vie en général.
C'est très très difficile de s'en décoller. Et moi, ce que j'aime dans le documentaire, on pourra en reparler après, c'est aussi ce chassé-croisé entre les gens du foot et ta famille proche.
Ouais.
C'est-à-dire ta maman, tes frères et sœurs. Et à un moment, elle parle de l'éducation, et on voit très bien que tes frères et sœurs et leur éducation, elle est irréprochable, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils ont le recul sur les événements et tout. Et toi aussi, finalement, on découvre ce côté attachant, et bon, moi, je te connais pas bien, mais même pour avoir croisé un peu Jérémy Ménez, ou d'avoir eu des échos même d'Atem Ben Arfa.
Bien sûr.
Tout, sur vous quatre, c'est les mêmes échos. Oh, quand tu le connais dans la vraie vie, c'est pas du tout le même. Et moi, je pense que, pour finir, on y reviendra, mais ce documentaire-là ou ce genre de documentaire, faut le passer dans les centres de formation. Parce qu'il faut que les gars, ils comprennent que, ouais, les embûches, c'est pas que les anciens qui leur disent, attention à ci, attention ouais. À ça, les médias, le média training. Eux, ils se disent, ouais, c'est bon, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu comprends pas tant que tu l'as pas vécu, je pense.
C'est clair.
Tu disais tout à l'heure, on est une nouvelle génération avec des nouveaux codes et notamment une grande confiance en soi. On en parle souvent, les jeunes désormais. Bon, Kylian Mbappé est un peu l'archétype désormais, le sommet de tout ça. Me parlez pas d'âge, c'est pas une question d'âge quand on est prêt à jouer, à débuter. Toi, tu dis dans le documentaire, on est venu pour tout prendre. C'est ça que tu disais, tout prendre avec la confiance, se dire, c'est parce que j'ai 17 ans ou 22 ans en équipe de France que je dois m'incliner devant un Pat Vieira ou un Lilian Thuram.
Non, il y a le respect. Il y a le respect parce qu'on respecte la carrière, ce qu'ils ont fait. Mais si je suis arrivé dans cette équipe-là et je suis avec toi dans la vie de tous les jours ou dans un groupe, ben on est là pour prendre la place. On n'est pas là pour faire des politesses ou être un petit peu trop respectueux en termes footballistiques. Moi, j'étais là. Ok, je suis arrivé là. La vérité, moi, quand je viens d'un milieu très très modeste, donc j'avais les crocs. Moi, je voulais sortir mes parents, mes frères, ma sœur de la vie du quartier. Je voulais leur acheter une maison. Je voulais réussir. Et comme je l'ai dit, quand je suis arrivé au tout début, non, c'est ma chance, c'est à moi de la saisir, et donc je vais tout faire pour.
Et ça a été mal perçu, parce que il y a notamment dans Intérieur Sport la phrase de Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge. Il y avait aussi l'anecdote de Karim Benzema qui, dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais à l'époque, en rigolant, avait dit non mais de toute façon moi rigoler sur mon bizutage, mais moi je vais vous prendre je vais prendre votre place. Est-ce qu'à l'époque il n'y avait pas un décalage immense entre votre génération et l'ancienne, et qu'il y avait des choses à pas faire? Est-ce que
pour
ça...
les anciens se faire respecter, c'est
ça,
avoir que les jeunes s'inclinent devant eux?
Exactement.
En réalité,
est-ce que c'était ça, c'était pas ouais, ça les règles du, les règles
toi,
du
non.
jeu à l'époque?
Pour moi non,
et toujours pas aujourd'hui dans ton esprit?
Non, pour moi non. J'étais, on va dire, cet ancien. Lorsque j'avais fait mon passage à Anderlecht, où Vincent Kompany m'avait appelé pour que je vienne jouer à Anderlecht et que je l'aide aussi en étant dans le staff. Il m'avait demandé, ouais, tu te mets dans le vestiaire avec nous, les coachs. Je lui avais dit non, si je suis encore joueur, je me mets dans le vestiaire avec les joueurs. J'ai pas envie de leur envoyer un signal un petit peu bizarre aux joueurs. Et les jeunes qui étaient là, il y avait Jérémy Doku, il y avait Alexis Alemakers, qui aujourd'hui joue les deux dans des grands clubs. Mais j'étais à fond avec eux dans la mentalité qu'ils avaient. Ils étaient là, ils acceptaient pas, ils étaient pas contents quand ils étaient sur le banc parce qu'ils sont sûrs de leur qualité. Et aujourd'hui, dans le monde du foot, c'est difficile quand on voit les réseaux sociaux, les messages qu'ils peuvent avoir. Ces jeunes-là, ça peut les toucher. Moi, je suis content de voir quelqu'un qui est sûr de lui et qui a envie de s'imposer. Au contraire, je ne le prendrai pas comme un manque de respect si le jeune, il pense qu'il est meilleur que moi à ce moment-là.
T'étais venu pour tout prendre, y compris la place de Thierry Henry dans le bus. C'est un moment fort du documentaire aussi, on ne va pas tout dévoiler. Je rappelle l'épisode en tout cas, équipe de France bien sûr, tu montes dans le bus avant lui, tu t'installes à sa place. William Gallas, qui n'était pas ton pote, hein, c'est moins qu'on puisse dire, à ce moment-là, s'agite, Henry arrive, il te demande de te lever, tu restes plusieurs secondes assis, le casque sur les oreilles en lui disant que son nom n'est pas écrit sur le siège. Avant finalement de lui céder sa place. Tu savais que c'était la sienne ? C'était une provoque ou non, là, une volonté de s'imposer là ou non, c'était une maladresse ? Non,
honnêtement, je savais pas du tout que c'était sa place parce que si on voit un peu l'historique sur les 3 ou 4 premières sélections, Thierry Henry était pas là, il avait une blessure au dos et c'était sa dernière année à Arsenal. Et donc je me mettais toujours à cette place et ce jour-là, il fait son retour en sélection, donc je me mets à cette place-là et derrière. Dans les groupes, c'est toujours comme ça. Quand il y a un jeune, on essaye de le titiller pour voir comment il va réagir. Tout le monde dit derrière, il y avait Willy Sagnol, il y avait William Gallas et Patrick Vieira. Et les trois, ils disent « Bon, on a fait un pari pour voir si tu vas te lever, parce que c'est la place de Thierry Henry. » Et Patrick, il fait ça pour me chauffer, Patrick. À ce moment-là, il me dit « Moi, j'ai parié que tu n'allais pas te lever. » Et là, j'ai 19 ans et il m'en faut pas plus pour me chauffer un petit peu. Donc, je mets mon casque, c'était à l'époque, de l'iPod. Et je mets pas de musique exprès, et je suis assis comme ça, et quand il vient Thierry, en fait, c'est sa première remarque, et qui dit, les jeunes, ils savent pas, c'est la place de qui. Et moi, je fais semblant, je l'entends. Et il me tape comme ça dans l'épaule, il me dit, lève-toi. Et en fait, c'est sa façon dont il me l'a dit, j'ai fait semblant de dire, il y a pas ton nom, donc je me lève pas. Et là, j'ai vraiment mis la musique juste après. Et après, il m'a retapé dessus, j'ai enlevé le casque. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, je suis superstitieux, c'est ma place, je suis là, ça fait 10 ans, tout ça et tout. Je me suis levé, je lui ai laissé la place. Donc pour moi, il n'y avait pas lieu de l'écrire dans un livre et de dire que...
C'est William Gallas qui l'a fait.
Et de dire qu'en gros, les problèmes générationnels, c'est pas un problème générationnel. À la rigueur, si on se tape dessus, que tu le mets dans un livre, non, mais... je veux bien. Et surtout que... Mais... La personne qui était là juste avant nous avait fait un livre.
Jérôme.
Et j'étais bien placé pour le savoir à Arsenal. William Gallas l'avait mal pris parce qu'il le nomme dedans. Et il avait très mal pris. Il disait, ouais, moi je comprends pas pourquoi dans un livre on nomme des anciens joueurs, faut pas faire des trucs comme ça. Et lui, 6 mois après, il me fait la même chose. Donc j'étais très mal pris et c'est de là que.
Parce que les livres sont faits pour être vendus et parfois aussi les éditeurs disent, il faut des exemples, il faut de la polémique.
Ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, deuxième chose que j'ai appris hier, c'est que tu t'as fini par lui laisser sa place.
Mais oui.
On savait pas ça.
Je pense qu'il y a 99% des gens qui suivent le foot qui pensent que tu lui as jamais laissé sa place.
Non, donc
90% des gens disaient, Samir Nasri, petit con, il fait ça à Thierry Henry, la légende.
Mais moi, je te le dis, je l'ai déjà dit ça. Pas forcément petit con, je me serais pas permis. Mais j'ai déjà dit, non, mais attends quand même, il avait pas laissé la place à Thierry Henry, tu vois. Alors qu'en fait, tu l'as laissé. Donc c'est pour ça qu'il est important ce documentaire. T'aurais même pu le faire, je sais pas, à la fin de ta carrière ou avant. Parce qu'en fait, ça rétablit des vérités. Et je reviens sur ce que tu disais sur le fait, moi les nouvelles générations, je les ai connues, moi je suis 83, je les ai connues dans des vestiaires, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, peu importe. Moi c'est pas ce qui me gêne parce qu'au final ça se finit toujours bien, ouais. Tu vois. Mais tu parlais de code, il y a le code et il y a l'éducation. Toi l'éducation tu l'as, d'ailleurs c'est un truc qui a piqué ta maman, qu'on dise que t'étais pas éduqué ou t'étais mal éduqué, etc. Et c'est normal, toutes les mamans qui sont occupées de leurs enfants auraient réagi pareil, mais... Le souci, c'est pas forcément que de l'éducation, en fait. C'est un petit peu d'éducation, un contexte, un peu de fierté, un moment où là, tu racontes que c'est Patrick Vieira qui te chauffe. Et du coup, ça reste pendant, si t'avais pas fait ce documentaire, peut-être toute notre vie, on aurait cru que t'avais pas laissé la place, tu vois. Et c'est ces petites choses qui font que, encore une fois, je reviens au fait que, et tu le dis dans le documentaire, et tes frères aussi le disent, on se rend pas compte de ce que t'as vécu. Et moi, je pense que oui.
Est-ce que eux aussi ont vécu d'ailleurs?
D'être né à Marseille, de percer à Marseille. T'es un des seuls qui a percé à Marseille. C'est fou.
Tu vas trop vite, Kevin.
C'est que on parle du départ et pour les jeunes générations, ce qu'ils vivent, les réseaux sociaux, l'exposition. Et on en parlait hier sur les jeunes joueurs, parce que toi, t'as été quand même exposé très jeune. Tu disais que je sais pas 6 mois après, mais ça, tu vas le dire. Mais franchement, ça doit être compliqué.
Kevin, il veut tout spoil. Non, c'est intéressant. Moi, ce qui est flippé dans l'anecdote, c'est que Thierry Henry n'a pas pété un plomb en fait.
Non.
Il est resté très calme, lui.
Non, il est resté
D'autres auraient pété un plomb, mais lui, il est resté La vérité, il t'a expliqué quoi.
Il est resté très calme, il m'a expliqué, je me suis levé, il m'a même invité à s'asseoir à côté de lui, il avait son classe. Ordinateur de l'époque, il a même sorti un truc pour mettre double écouteur dessus, il m'a dit viens on regarde une série ensemble.
Mais voilà.
Et moi à l'époque, je lui dis mais c'est quoi comme série, c'est en quoi? Il me dit c'est en VO. Ouais, mais moi je parle pas anglais, j'étais encore à Marseille. J'ai dit, non, laisse tomber, j'ai mis mon iPod et j'ai écouté ma musique. Mais voilà, c'était surtout ça, c'est super bien terminé, on s'est revu avec Thierry, on s'est pris dans les bras, on discute. Il y avait vraiment pas lieu d'en faire toute une histoire.
Mais avec le recul, Samir, quand on regarde le documentaire, en fait, c'est le point de départ de ta carrière en équipe de France. Au final, parce que derrière, tu fais pas 2010 parce que, enfin, c'est comme ça qu'on le comprend dans le documentaire. Bah, les cadres, on sait que les cadres sont très importants et que.
Un cadre
qui était important. J'ai l'impression qu'entre toi et William Gallas, bah, que Raymond Domenech a choisi William Gallas.
Et c'est normal.
Que derrière en 2012, déjà tu reviens, mais t'as un peu derrière toi cet épisode en disant bon, faut pas qu'il se loupe. Qu'en 2012 ça se passe aussi un peu mal, et qu'après derrière Deschamps, j'ai l'impression qu'en fait ce passage-là est quand même le passage qui détermine tout au final, ou pas?
Non. Je pense qu'il y a certaines choses après qui ont fait que, tu vois, même il y a certaines performances qui n'ont pas été à la hauteur, donc forcément tu deviens pas légitime d'une certaine manière. 2012, moi jusqu'en 2012 avec Laurent Blanc ça se passe bien. On oublie peut-être, mais la qualification à l'Euro, c'est moi qui mets le pénalty décisif contre la Bosnie avec Laurent Blanc, ça se passait super bien. Après, j'ai une réaction d'humeur parce que j'avais des comptes à régler avec les journalistes de l'équipe qui, depuis moi, c'est pas simplement les matchs de préparation, mais même avant ça, mon départ d'Arsenal à Manchester City, j'ai aussi mal pris que certains consultants qui étaient des joueurs de foot qui avaient fait des choix, eux, dictés par l'argent, m'ont traité de mercenaire parce que j'avais quitté Arsenal. Donc, il y avait aussi une accumulation de beaucoup de choses. Il y a eu ma maladie aussi qui a fait, qui m'a changé aussi sur le monde du football. Donc non, il y a plusieurs trucs. Et Didier Deschamps, la relation pour moi avec lui, elle avait mal débuté parce qu'à l'Euro 2012, il n'était pas encore sélectionneur. On savait qu'il allait prendre l'équipe après l'Euro 2012. Et il m'a appelé à moi personnellement pour discuter des futurs plans et compagnie. Et après la suspension, il n'a pas tenu toutes les promesses qu'il a eues envers moi au téléphone. Donc c'est pour ça que, et moi je suis quelqu'un, je me ferme de suite. En fait, si je m'aperçois que la personne est hypocrite ou elle est pas franche comme moi, j'ai un peu de mal avec le rapport humain de temps en temps.
Donc 2012.
On va faire l'équipe de France tout à l'heure, dans le détail notamment. Dans un instant, on va commencer par Marseille aussi. Tes débuts en bas de l'immeuble, tu jouais quasiment tous les soirs, même si ta mère voulait que tu sois médecin ou avocat. T'as choisi footballeur professionnel. On va raconter ça. Arsenal, City, Fabregas, Wenger. De tout ça, on va parler. On a du temps avec toi, Samir Nasri, notre invité exceptionnel dans Génération After sur RMC, 23h23. À tout de suite.